Bonjour à tous, à tous que je n'ai pas salué, je le fais maintenant. Voilà, je ne vais pas vous cacher que, comme ça a été évoqué dans la prière, il va être question de pierre, pas de pierre au don, ni d'autres pierres, mais de pierres dont vous avez quelques exemples devant vous. Sur le plateau, j'ai l'impression que les pierres ne manquent pas, que ce soit des schistes, des granites, des calcaires, du basalte, que ce soit des loses, il y a une grande variété. Et c'est vrai que quelle que soit l'origine géologique de ces pierres, que soit leur forme différente, leur aspect, pour moi, chaque fois, je pense, ça me fait penser au Créateur, à celui au Dieu Créateur, qui a créé toutes ces choses dans cette si belle variété, autant dans le monde minéral que dans le monde végétal, animal. Voilà. Il ne cesse de nous étonner par les merveilles qu'il fait dans la nature. Et il se sert de choses naturelles pour nous parler. Alors c'est vrai, parmi les pierres, on pense au diamant, le diamant qui reste quand même la pierre naturelle la plus dure connue au monde. La pierre naturelle la plus dure connue au monde. Il y a quelques années, l'un d'eux a été vendu 14 millions d'euros. J'ai lu cette nouvelle. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. 14 millions d'euros. C'était un diamant de combien 8 carats, ça fait 1,6 g, ça fait cher le kilo, hein. 14 millions d'euros, voilà. Et puis, quand on pense à la Bible, si on va à Jérusalem, on peut voir des pierres lourdes, on peut s'extasier devant une énorme pierre qui fait 580 tonnes. Alors, je ne veux pas minimiser le travail de Lucien, qui a mis en place cette pierre-là, il doit faire une centaine de kilos peut-être, hein, il m'a dit qu'il a usé d'un palan, mais vous imaginez 580 tonnes, ça fait 5800 pierres comme celle-là. Voilà, et il fallait l'amener quand même dans les fondations du temple, donc un exploit phénoménal. Et à l'inverse, j'ai lu qu'il y avait, on avait découvert il y a quelques années, près de la Nouvelle-Zélande, une mer, une île au milieu de l'océan, une île de pierres qui flottait. Donc des pierres hyper légères, c'est des pierres ponces. Une île qui doit peser des millions de tonnes qui flotte. Il paraît qu'elle est aussi grande que la Belgique, je n'ai pas vérifié, est-ce que c'était une fausse information, je ne sais pas. Voilà, donc des pierres légères, des pierres, la pierre ponce, une des pierres les plus légères. Alors dans la Bible, les pierres, les cailloux, les roches tiennent quand même pas mal de place, elles sont nommées pas loin de 400 fois dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Surtout dans l'Ancien Testament. Elles sont employées à divers titres. Il y a diverses fonctions de ces pierres, et on comprend qu'on ne va pas survoler même ce sujet. On va plutôt se cantonner à parler des pierres de construction, des pierres dont la Bible parle dans l'optique de la construction. Et très souvent, les pierres dans la Bible sont employées au sens littéral comme au sens figuré. Voilà, alors, et en regardant ces pierres, comme j'ai dit qu'on en parle dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, eh bien, je vais essayer d'établir des ponts de pierre même, solides, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour montrer l'unité de la parole de Dieu, et on l'a déjà dit ces jours passés, combien le Nouveau Testament vient éclairer, apporter une lumière vraiment magnifique sur l'Ancien, qui, quelquefois, est un petit peu dans l'ombre. Alors, bon, c'est un petit peu mon dada, si on s'intéresse un peu à l'hébreu. L'hébreu, c'est quand même la langue choisie par Dieu pour nous parler, dans l'Ancien Testament, qui a été écrit il y a 2500 ans environ. Et c'est une langue d'une richesse étonnante. Le Seigneur a affirmé que pas une lettre ou un seul trait de lettre ne passera de la loi. Et je pense que ça peut être compris au sens littéral. Voilà. Alors je vais demander, bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes, alors je vais vous demander... Est-ce que quelqu'un connaît le mot, on va faire un peu d'hébreu, hein? Est-ce que quelqu'un connaît le mot père en hébreu? Le mot père. Père, c'est... Alors, voilà. Alors, Abba, effectivement, dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus qui l'emploie, je pense que c'est en araméen, et c'était donc la langue courante qui était parlée par le Seigneur, par les disciples, et cela veut dire, on l'a rappelé hier, papa, hein, tendre père, papa. Alors sinon, c'est, plus court, c'est... Av. Donc, voilà, je vous le montre ici, avec les lettres. Je dévoile deux lettres, Aleph, Bet. Donc la lettre Bet, qui est un peu spéciale, se lit B et V. Hein. C'est un peu comme en espagnol. Hein. En espagnol, B et V, c'est pareil, hein, à peu près, même s'il y a deux lettres. Alors ici, c'est Av. Voilà, Av, c'est père. Donc je rappelle qu'aussi, ça se lit de droite à gauche. Av, Aleph, Bet. Aleph, première lettre de l'alphabet. Et est-ce que vous connaissez fils? Fils, Ben, voilà. Fils, c'est Ben. Hein. On le retrouve un peu dans la langue arabe, c'est des langues sémites. Et on a Bet, la même lettre, et Noun. Je ne me suis pas trompé? Bon, je n'ai pas fait d'erreur. Bet et Noun, Ben, deux lettres. On sait qu'en hébreu, il n'y a que des consonnes. Voilà. Et bien maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Je me suis trompé, non. Je voulais parler, Pierre, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me dire comment se dit Pierre? Une pierre, dans l'Ancien Testament, on le trouve en toutes lettres. Pierre, c'est une pierre. Ancien Testament, allez, un Samuel, Eben. Voilà, donc ça va se prononcer, nous, on a la pierre de secours, hein, dressée entre le rocher et Mitzpah, un Samuel 7, elle s'appelait Eben Etzer, pierre de secours. La bonne prononciation, c'est Eben, puisque c'est un B, comme ça. Voilà, alors pourquoi je vous parle de ça? Ben voilà, tiens, on l'entend pas trop, mais les Juifs, ils l'entendraient. Quand je lis père, Aleph, Bet, quand je lis Ben, Bet, Noun, eh bien, j'ai les lettres de Pierre. Aleph, Bet, Noun. Il n'y a pas deux, il y en a une. Alors, il faut peut-être réunir le père. Je vais mettre celle-là peut-être. Ouais, allez. C'est un peu hasardeux. Le père. Je réunis le père et le fils. Je les associe pour former Pierre Even. Allez, encore un peu d'hébreu. Je vais vous dire, je ne vais pas faire toujours deviner. Il y a un mot qui dérive de pierre, et comme je vous avais dit tout à l'heure qu'on va s'attacher essentiellement aux pierres de construction, eh bien c'est le mot bana, qui veut dire construire. Et bana, ça va être bet, nun, et puis e. Voilà bana. Je ne veux pas trop les manipuler. Hein. Alors oubliez celle-là. Voilà. Bet, nun, e. Voilà le verbe bana, construire. Et vous voyez que je retrouve deux lettres de la pierre. Hein. Ça dérive de ce mot. Et quand je pense à ce mot, je ne peux pas m'empêcher de penser à un passage de la parole qui met en évidence les deux sens de bana. Les deux sens de bana, il y a un sens qui veut dire construire, fonder, établir, dans le sens de construire une maison, un édifice. Et puis ça veut dire aussi construire, fonder, établir dans le sens d'une famille, avoir des enfants. En hébreu, c'est la même chose. C'est les mêmes mots. Tiens, c'est intéressant. Dans le domaine matériel, dans le domaine de la construction, comme dans le domaine du vivant, on a vraiment un lien, un sens donc très, très étroit. Alors, puisque bana vient du mot even, pierre, on peut penser que le premier usage, la première destination de la pierre, c'est la construction. Dans la Bible, d'ailleurs, soit dit en passant, les hommes de foi construisent en général avec des pierres, tandis que les incrédules préfèrent construire avec des briques, le fruit de leur travail, de leur propre création. Il fallait mélanger de la paille et de la terre, ce qui montre la futilité, la vanité des choses avec la terre, l'humanité. Et ça ne tient pas la brique. Tandis que la pierre, c'est ce que Dieu a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de Dieu, c'est naturel, c'est stable, c'est solide. Alors, si vous voulez bien ouvrir votre Bible, ceux qui veulent, hein, je ne force personne, au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, pour essayer de saisir un peu les deux sens de ce mot. On ne va pas lire toute la scène. De Samuel 7, il est question de David qui, dans son attachement à Dieu, avait conçu un merveilleux projet, celui de lui bâtir une maison. Il avait honte, lui, d'habiter une belle maison de cèdre et de voir Dieu habiter sous des tentes encore, hein, cette arche qui était sous les tentes, l'arche de l'Alliance, qui était dans un tabernacle. Et alors, il a eu ce projet à cœur, et puis on sait l'histoire, le prophète est venu lui dire que ce ne serait pas lui, ce ne serait pas lui, et que ce serait en fait son fils. Et là, Dieu a employé un subtil jeu de mots qui est vraiment riche de sens. Je dis ça avec tout respect, mais Dieu a fait un jeu de mots. Alors, on peut lire le verset seulement, si vous êtes au chapitre 7 de 2 Samuel, au verset 27, « Je te bâtirai, Bana, une maison. » C'est Dieu qui promet à David, « Je te bâtirai une maison. » Tiens, David voulait bâtir une maison à Dieu, une maison en pierre, un beau temple, et c'est Dieu qui lui dit « Je te bâtirai une maison. » Un temple, oui, mais il avait dit auparavant quelques versets plus haut, versets 14 à 16, « Lui bâtira, Bana toujours, une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. » Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Dites-moi, Salomon règne encore parmi les rois actuels? Alors Dieu s'est trompé. À moins qu'il ne soit pas question peut-être que de Salomon. Salomon a bien bâti un temple, mais pas pour toujours. Alors, derrière Salomon, il y a déjà Jésus. Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, qui lui bâtira un temple qui durera à toujours, le temple éternel. Voilà le projet de Dieu. Quand David a eu cette idée, voyez les réponses de Dieu qui vont au-delà de ce que David peut attendre. Et effectivement, il se confond en action de grâce, en bénédiction devant Dieu. Et Dieu nous montre que c'est lui qui est le vrai bâtisseur. Et alors là, il y a un peu deux choses. Il y a donc cette promesse que Dieu fait, dont la réalisation va débuter par la naissance de Salomon et qui trouvera son accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui bâtira à son tour un temple. Oui, l'Église. L'Église. Cette maison au nom de Dieu. Et puis, il y a ensuite, beaucoup mieux que Salomon, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ qui a bâti ce temple, qui bâtit cette église. J'ai sauté peut-être, plutôt Dieu montre que c'est le vrai bâtisseur. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a permis que ce temple bâti par Salomon voit son accomplissement dans la venue de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu a bâti. Il a bâti le projet de salut. Il va amener la pierre de fondement, Jésus-Christ. Donc on voit l'interaction entre Dieu et le Fils, comme ça montre là, entre le Père et le Fils, parce que Av, c'est souvent employé pour Dieu, Dieu et le Père, même pour Israël, Dieu et le Père de son peuple, de ses enfants. Donc, Père et Fils bâtissent, et c'est un édifice qui commence par une pierre. Et on sait que Jésus-Christ sera la pierre. Alors, si on traverse le pont vers le Nouveau Testament, eh bien, la lumière, moi je trouve qu'elle arrive dès la première page, en Matthieu 1. Moi je trouve que là, c'est merveilleux comment on voit que Dieu a rapproché, dans la généalogie du Seigneur Jésus, comment Dieu a rapproché, puis disposé avec soin des pierres, des hommes et des femmes choisis par lui, depuis Abraham, trois rangées de 14 pierres, pendant plus de 2000 ans, en passant par Salomon, fils de David, pour accomplir sa promesse, jusqu'à faire surgir la pierre de fête, la pierre qui couronne l'édifice, selon la prophétie de Zacharie, Jésus-Christ, duquel il sera dit « grâce et grâce sur elle ». Et puis, si on n'a encore pas bien vu, si on veut avoir un autre panorama, on va en Luc 3. En Luc 3, on trouve une autre généalogie. On voit l'édifice que Dieu a bâti sous un autre angle. Un, c'est de bas en haut, l'autre, c'est de haut en bas. Et là, alors, on voit 60 fois Ben, fils de. Bon, là, c'est écrit en grec. Mais c'est quand même, le Seigneur, il disait fils. Fils de. Le Seigneur a posé les pierres, les unes après les autres, jusqu'à arriver à Jésus-Christ. Et là, le panorama est encore plus merveilleux puisqu'il remonte à Adam. Il remonte à Adam. Plus de 60 fois, on a fils d'eux. C'est absolument vertigineux. Que de pierres rassemblées, en fait, pour parvenir à cet apogée qui est Christ, le fondement du salut. Voilà, le fondement, lorsqu'on envisage de construire un édifice, c'est vrai que la première chose à faire, c'est de, dès qu'on a conçu le projet, il faut réaliser des plans, trouver le terrain, et ensuite, il faut construire sur un fondement solide, sur un fondement stable. Bon, ici, je ne veux pas critiquer Lucien, mais le fondement ne me semble pas très stable, puisqu'il m'a dit de faire attention même en marchant. Mais, voilà, dans la Bible, c'est différent. Dans la Bible, c'est différent, le fondement, il doit être stable. Et pour les constructions de maisons, chacun sait, si on construit sur un terrain argileux, si on construit sur du sable, hein, la parole le dit, hein, dans l'Évangile, eh bien, on s'expose à des déboires. Voilà pourquoi il fallait trouver un fondement. Et le Seigneur, l'Éternel, a choisi Jérusalem, la montagne de Sion. Alors, on peut lire dans Ésaïe 28, 16, un texte de référence. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre, une précieuse pierre de quoi? Un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Voilà, de tous les types de sols, les rochers saints sont certainement les meilleurs fondements, ils présentent les meilleures garanties. Voilà, c'est sur ce massif rocheux, sur le sommet, que va se trouver le fondement du temple que Salomon va bâtir à l'Éternel, plus précisément celui du lieu très saint. L'extrémité la plus élevée de ce rocher peut encore se voir dans la mosquée d'Omar, dans la mesure où l'autorisation est donnée de la visiter. Voilà. Alors, on se rappelle qu'autrefois, le grand prêtre qui officiait dans le second temple, une fois construit, dans le second, je parle plutôt, donc, au temps du Seigneur, eh bien, il entrait dans le lieu très saint, dans l'intimité même de la présence de Dieu. Il entrait une fois l'an seulement, on le savait, et probablement qu'il était tout tremblant, mais heureusement qu'il avait le sang du bouc, ce sacrifice pour le péché, selon Lévitique 16. Et il l'aspergeait sur le rocher. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait plus d'argent. Je parle du second temple, le temple du Seigneur. Et alors, il se tenait nu-pied sur le rocher ensanglanté, et quoi qu'en la présence du Dieu Saint, lui, pécheur, ne mourait pas. Et encore, il a porté tous les péchés du peuple avec lui. Donc, il y avait cette grâce. Alors, pour nous, on traverse le pont une fois de plus, à plus forte raison, chacun d'entre nous, jeune ou vieux, comme moi, plus vieux encore même, peut se fonder et s'appuyer sur le sacrifice de Christ. Ça, c'est le fondement, c'est le rocher du salut, le rocher des siècles. David pouvait le dire en 2 Samuel 22, verset 47, « L'Éternel est vivant, que mon rocher soit béni, et que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Voilà, Dieu voit encore aujourd'hui le sang de Christ qui a été versé à la croix. Et sur cette base, tous les péchés de celui qui se repent sont pardonnés. Dieu est entièrement satisfait, c'est pourquoi il peut accueillir favorablement dans sa maison le croyant. Alors la porte est encore ouverte, l'entrée est libre et gratuite, le Seigneur invite chacun à venir. Alors on peut poser la question, il y a de la place pour tous, hein? On peut demander à chacun, avez-vous accepté de vous fier vraiment à Christ, le rocher, à son œuvre qui est indispensable mais suffisante pour bien démarrer dans la vie? On ne peut qu'admirer la complémentarité merveilleuse entre Dieu et le croyant aussi, là, en ce qui concerne le salut. Mais Dieu fait quand même 99%. Dieu le prépare, il l'offre à chacun, et le croyant n'a plus qu'à accepter. Alors une fois que, je reviens au fondement, une fois que le fondement a été trouvé, les anciens posaient une maîtresse pierre de coin, comme il est dit là, une pierre d'angle. Alors ici, Voilà, il me semble que c'est celle-là qui représente la pierre d'angle. La pierre d'angle posée sur le fondement donne l'orientation de tous les murs de la maison, hein, chapelle entendue, la longueur, il y aura la largeur, et puis il y aura la hauteur, selon la condition qu'elle est. Si elle est bien verticale, ce sera vers la hauteur que l'édifice s'élèvera. Voilà, sauf que sur la montagne de Sion, la pierre de fondement et la pierre d'angle ne font qu'un. Et c'est pour ça que l'image peut s'appliquer encore à Jésus-Christ. Il est à la fois la pierre de fondement et la pierre d'angle. Voilà, parce que le rocher à cet endroit est élevé et son orientation naturelle, c'est celle qui a permis d'orienter le lieu très saint et par la suite même tout le temple. Est orienté à partir de ce rocher qui se trouve en haut du massif rocheux. Voilà. Voilà donc identité entre la pierre de fondement et la pierre d'angle. Alors pour nous, le fondement, si on franchit à nouveau le pont vers le Nouveau Testament, pour nous c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même, quelqu'un de vivant. Quelques caractères de la pierre s'appliquent à lui. Cela nous parle de durabilité, d'éternité, de solidité, de stabilité. Le fondement, ça veut dire aussi le commencement, la chose principale. Et c'est en rapport avec l'édifice qui va être élevé dessus. Jésus l'avait annoncé à son disciple Simon-Pierre, qui avait répondu « Tu es le Christ ». Le Fils du Dieu vivant. On peut lire ça, chacun sait, en Matthieu 16, verset 16. Et bien, Jésus lui avait dit alors, lui aussi en faisant un jeu de mots, encore sur les pierres. Comme l'Éternel avait fait un jeu de mots sur le mot bâtir, et bien Jésus en fait un sur les pierres. Il lui dit, je te dis que tu es pierre, pétros en grec, une pierre. Et sur ce roc, pétra, un rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que c'est Pierre, le fondement de l'Église? Certains le croient. Mais non, c'est pas possible. Pierre n'est qu'une pierre posée sur le fondement, et c'est Jésus-Christ qui est le sur-fondement. Le temple de Salomon était construit avec des pierres. Un roi 7 nous dit que c'était de grandes pierres, des pierres de prix. Des pierres de taille, un roi 5. Toutes les trois rangées, on mettait une poutre même, des poutres de cèdre, pour donner une certaine souplesse à l'ensemble, pour parer aux secousses du sol. Alors, si on regarde dans le Nouveau Testament, une fois de plus, on traverse le pont, et on voit l'explication de Paul en 1 Corinthiens 3, verset 9. On peut le lire. 1 Corinthiens 3, 9. Vous êtes, le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Au verset 11, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Et au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? De même qu'il y avait un temple unique, l'Église, formée de tous les croyants depuis la Pentecôte, est l'unique résidence de Dieu sur la terre. Nous l'avons rappelé hier par l'Esprit Saint qui habite en elle. C'est une construction autrement plus belle que ce temple qui pourtant était magnifique, au temps de Salomon recouvert d'or. Au temps d'Hérode, magnifique aussi, non pas ces temples. Mais on disait que celui qui n'avait pas vu le temple de Jérusalem n'avait rien vu. Il resplendissait au loin sous la lumière du soleil, tout de marbre blanc. Mais l'Église, j'ai pensé à ces adjectifs, elle est longue, une longue construction étendue, peut-être j'aurais pu dire large d'abord, une construction large qui s'étend à tous. Il y a de la place pour tous, c'est l'Église universelle. Elle est large selon la largeur de l'amour de Dieu envers tous. Elle est longue parce qu'elle va d'une éternité à l'autre. Ça a été conçu déjà dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Et elle existera juste dans l'éternité. Elle est profonde dans les souffrances et la mort de Jésus-Christ, son fondement. quelle profondeur. Voilà le fondement. Souffrance et la mort de Christ. Et puis elle est haute. Elle est élevée au-dessus du temple de Salomon, au-dessus de toute cathédrale. Elle s'élève jusqu'au trône de Dieu. Et elle sera bientôt dans la gloire. Dans une place, la place la plus élevée qui soit. Je trouve vraiment que l'Église est à l'image de l'amour de Dieu, selon Éphésiens 3, verset 20, auquel j'ai fait allusion. Voilà, bientôt, une fois cette construction achevée, bientôt, tout à l'heure peut-être, Jésus, le Seigneur, va la déménager au ciel pour toujours avec lui. C'est un édifice qui est vivant, indestructible, éternel. En attendant, voilà, elle est méconnue, peu visible dans le monde, ignorée ici, persécutée ailleurs. Elle a subi, elle subit encore des assauts de la part de l'ennemi, au-dedans et au-dehors. Mais, nous l'avons lu tout à l'heure, Jésus a affirmé que les portes de l'Hadès, le pouvoir de la mort, ne prévaudront pas contre elle. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter un instant pour chanter un cantique, je pense au 238, verset 2. Est-ce que quelqu'un ne veut pas vous en donner? Je n'ai pas trop de voix.
Quelqu'un pour en donner?
Jésus sur fond de mort, de sa chair.
Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 4 à 7, il est question du Seigneur, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, le verset qu'on a lu, dans Isaïe, « Voici je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix. Des pierres vivantes. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Quand on voit des pierres comme ça, qui sont caractérisées par l'inertie, pourquoi le Seigneur emploie cette métaphore? Et déjà, je l'ai un peu dit, l'Ancien Testament, construire, édifier, avoir des enfants, hein, c'est donc déjà quelque chose de, un lien étroit entre le Fils et la pierre, donc il y a déjà quelque part de la vie. Mais l'apôtre détourne l'image de son sens premier et fait de nous qui sommes des êtres issus de la première création, il nous rend participants de la nouvelle création. Il nous fait accéder à la vie vraie, à la vie éternelle. On est les fruits du miracle de cette nouvelle création. Et ce miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. Comme un divin carrier, Dieu nous a tirés, peut-être avec quelques peines, de la carrière du monde. Et à partir de ce moment, il nous communique sa vie. Nous sommes des pierres vivantes composées de la même substance que la pierre de fondement Jésus-Christ. C'est lui qui nous communique la vie. Et nous sommes édifiés de façon stable sur lui. Nous sommes aimés de lui, nous sommes unis à lui, de façon intime, indissoluble. Dieu a voulu que nous soyons édifiés ensemble. C'est vrai que ça ne semblait pas être peut-être une nécessité. Pourtant, Dieu l'a voulu comme ça. On trouve ça à Éphésiens 2, 22, j'aime bien ça. Dieu a voulu que nous soyons édifiés ensemble. Et en grec, c'est un seul mot, édifiés ensemble. Soyons édifiés. La relation qui nous unit en fait les uns aux autres, c'est Dieu qui l'a créée. Et c'est certainement pour notre bien. Je ne crois pas que Dieu souhaite pour nous une vie en solitaire. Ce n'était pas son projet, ce n'est pas son plan. Il me vient à l'esprit que le dicton « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » a aussi sa signification au sens spirituel comme au sens courant. Je pense qu'il vaut également au plan spirituel. Jeune ou plus âgé, la pierre isolée ou celle qui s'isole volontairement n'est pas selon la pensée de Dieu et elle se prive de bénédictions, des bénédictions que Dieu veut déverser sur l'ensemble. Comme le temple autrefois était un témoignage pour toutes les nations, une maison de prière pour toutes les nations, l'Église, colonne et soutien de la vérité, a un témoignage à rendre dans le monde. Et chacun de nous a en fait une conduite, une responsabilité en rapport avec l'Église et avec le monde. J'ai un quart d'heure encore ? Non, je raccourcis. Raccourcir un peu. Voilà. Je raccourcis un peu. Je voulais montrer un peu que Dieu répond à nos besoins personnels. Alors, on pourrait se demander, puisqu'on parlait de l'Église, à quoi ça sert l'Église ? Quel est son rôle au juste ? Alors, je me fie à un fondateur d'Église contemporain qui a répertorié 5 objectifs à partir de la Bible qui seraient importants à mettre en œuvre dans toute Église. Donc là, je reviens un petit peu dans le sens d'un rassemblement local, hein, mais aussi dans l'Église universelle. Alors, il donne même un moyen mnémotechnique pour les retenir, les 5 M. Alors, dans l'Église, on peut magnifier. Magnifier, c'est un M pour parler de l'adoration. Aimer le Seigneur par l'adoration. Je ne pense pas que dans les 5 qu'il nomme, il y a une hiérarchie, mais peut-être quand même que l'adoration vient en premier lieu. On l'a vu tout à l'heure dans 1 Pierre. Elle nous aide à nous centrer sur Dieu, elle nous motive, elle nous renouvelle. Le ministère. Aimer ses frères et sœurs, mais développer des talents pour les mettre à leur service. C'est dans le sens de celui qui donne le ministère, donc par Dieu, par l'Esprit, par le Seigneur, hein, tous ces dons qu'il communique à son assemblée, voilà, les mettre en œuvre pour le bien des frères et des sœurs, pour le bien des autres pierres de l'édifice. La mission, aller et faire des disciples. L'évangélisation consiste à gagner des personnes. Famille, amis et autres, à Christ. La mission. Je dis pour ma part, on a tendance à l'oublier, plusieurs d'entre nous. Et puis, membres. Quatrième M, membres. La communion fraternelle. Elle nous aide à faire face à des problèmes, aux problèmes de la vie, et cela encourage de sentir qu'on n'est pas seul, qu'on a des frères, des sœurs. Et puis, la maturité. Cinquième M, l'obéissance fortifie la foi et contribue à la formation du disciple. Il faut grandir, devenir disciple de Christ. On n'a pas le temps de développer chacun de ces points. Personnellement, je pense qu'il concerne chacun des membres de l'Église. Voilà, toutes ces grâces de Dieu envers moi ne peuvent être remises en cause, mais il n'empêche que, comme un divertissant, Dieu poursuit son travail en nous. Il nous façonne pour nous rendre conformes à l'image de Christ, on l'a déjà dit, la pierre précieuse. Alors je peux demander à Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, comme l'écrivaient les moines du Moyen-Âge, afin que ma vie soit vraiment en harmonie avec le beau projet que tu as formé pour moi. Alors, peut-être que je suis le pierre qui présente des arêtes tranchantes, des angles saillants. Alors je peux par exemple dire au Seigneur, polis-moi pour faire disparaître les aspérités, les rugosités, aide-moi à éviter les paroles dures, blessantes, particulièrement avec mes proches. Je me trouve en contact avec d'autres pierres, je dois en supporter d'autres, et d'autres me supportent. Alors je peux dire au Seigneur, Seigneur, tu nous supportes tous, mais tu le sais, il y a parfois des tensions. Seigneur, aide-moi à ne pas m'irriter, particulièrement avec celles, je parle des pierres, pas des sœurs, qui ont du caractère et qui ne partagent pas ma façon de voir les choses. Garde-moi des critiques à leur égard et donne-moi la patience aussi pour les écouter et prier pour elles. Chaque pierre est différente, on l'a vu. Lucien nous en parlera peut-être encore, mais belle à sa place. Chacune contribue à la beauté de l'édifice, à l'ordre, à l'instar de la pierre de fondement. Alors Seigneur, aide chacune à trouver la place que tu lui assignes, pour qu'elle n'empiète pas sur la place de l'autre. Fais-moi apprécier la beauté des autres, ton œuvre bénie à travers chacune. Que l'humilité me caractérise, comme je la vois en toi. J'ai une utilité pour l'ensemble, même si j'en ai pas trop conscience. Je vais pas me dénigrer. On va le dire tout à l'heure, parce que j'ai du prix pour le Seigneur. Mais d'abord, alors Seigneur, aide-moi à agir avec toi, pour le bien de tous. Garde-moi de toute envie, de jalousie, de mépris. Et comme je suis précieux pour toi, même si je suis de constitution fragile, Seigneur, aide-moi à reconnaître la valeur que tu accordes à chacun des tiens, chacune de tes pierres, à estimer le prix qu'elle a pour toi, incomparablement plus élevé que le diamant dont nous avons parlé, dont j'ai parlé au début, et à contribuer à sa croissance. Et puisque la vie de Christ nous caractérise, alors, il y a une exhortation Colossiens 2, verset 7, marcher en lui, et enraciner et édifier en lui. Alors on peut le prendre à notre compte chacun. Marchons en lui, enraciné et édifié en lui. Pour terminer, je souhaite vous raconter une histoire populaire de Pierre. Peut-être certains la connaissent, c'est égal. Vers 1170, au Moyen-Âge, un nouvel arrivant à Paris entend un bruit régulier comme quelqu'un qui frappe à coups répétés, sans arrêt, sur un objet dur. Il suit le bruit et découvre un chantier. Et là, un peu à l'écart, un homme travaille. Il se dirige vers lui et l'interpelle. « Que faites-vous là, mon brave ?» L'ouvrier lui répond, visiblement agacé. « Tu le vois bien ce que je fais. Je casse des pierres. C'est dur, j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai chaud. C'est pas un métier. Je suis exploité au maximum. » Il envoie un second, occupé à la même tâche. Il pose la même question. Celui-ci répond aimablement. « Eh bien, je gagne ma vie, je taille des pierres pour nourrir ma famille. Je taille la pierre angulaire d'une arche de voûte. » Finalement, il interroge de la même manière un troisième. Ce dernier lui répond d'un ton enthousiaste. « Moi, monsieur, je suis tailleur de pierres et je bâtis une cathédrale. » Alors lui, il avait trouvé un sens élevé à ses gestes. Effectivement, c'est la construction de Notre-Dame de Paris qui ne sera achevée que 100 ans plus tard. Mais cet ouvrier avait conscience d'y travailler, d'y apporter sa touche. Alors, comme le premier, nous pouvons accomplir notre travail, quel qu'il soit, le nez dans le guidon, sans nous poser de questions, absorbés peut-être que nous sommes par le labeur, peut-être enclin à nous plaindre des conditions difficiles que nous vivons. Le travail est alors une corvée. Comme le deuxième, nous focalisons sur le processus en cours. Nous pensons à la satisfaction de nos besoins, ceux de notre famille. Et en même temps, nous voulons également être reconnus, estimés, considérés. Ou, comme le troisième, nous allons au-delà de l'action immédiate et des besoins du moment. Nous avons une vision plus élevée. Alors nous, elle peut nous amener effectivement à regarder plus haut, plus loin. Celle du projet que Dieu a formé pour nous. Alors prenons le temps de poser notre outil pour nous poser la question. Là, dans mon activité professionnelle ou bénévole, pendant ce temps de la vie que Dieu m'accorde, à quel édifice j'apporte ma pierre? À quelle œuvre collective finalement je contribue? Dieu veut renouveler notre foi, nos forces, notre énergie. Alors que chacun, conscient de sa relation avec Christ et avec ses frères, puisse être un peu plus zélé, moi le premier, pour participer activement à la construction de l'Église, en synergie avec lui, avec ses frères et sœurs, selon la promesse de Marc 16, quelqu'un l'a rappelé hier, je crois, le Seigneur coopérant avec eux. Le Seigneur coopérant avec eux. Voilà, dans 1 Corinthiens 15, je termine par cette citation de 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, je me mets dans le lot, et je mets aussi des sœurs dans le lot, soyez soyons fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre, notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. À lui la gloire. Merci pour votre patience.
Quelqu'un veut chanter un cantique, indiquer un cantique, pardon.
S'il n'y a pas de cantique, ça fait rien dans l'église. Dans l'église, comme ici, il ne faut jamais boucher les trous. Donc je vais continuer un petit peu cet immense sujet avec ce thème. Le sujet de la construction de l'Église, on peut le diviser en deux grandes parties. Matthieu 16, c'est « Je bâtirai mon Église ». Ça, c'est le Seigneur qui fait tout, là. Et puis, 1 Corinthiens 3, « Nous sommes collaborateurs de Dieu ». Les deux parties bien distinctes. Donc, je vais ajouter quelque chose sur la première partie, puisque nous avons l'avantage d'avoir des choses concrètes devant nous. Je relis le verset d'Ésaïe 28. « Voici, je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée. » Notez bien cette expression, « une pierre éprouvée ». Une pierre précieuse, pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Et l'apôtre Pierre, il traduit un petit peu différemment. Il dit, on l'a lu, celui qui croit en elle. Bon. Mais enfin, est-ce que ça vous a jamais arrêté? C'est quand même assez curieux comme verset. Se fier à une pierre. Et croire à une pierre, nous comprenons tous que, on l'a dit, que cette pierre, c'est le Seigneur. Mais enfin, bon, nous restons dans l'image pour l'instant. Croire en une pierre, se fier à une pierre, c'est un langage bien étrange. Eh bien, je vais vous montrer que c'est pas tellement étrange du tout. Vous voyez cette pierre-là, elle dépasse. C'est ce qu'on appelle une pierre en encorbellement. Et dans une construction, parfois, il faut des pierres comme ça. Ça sert, par exemple, on pose un échafaudage sur la partie qui dépasse. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire à propos de cette pierre en encorbellement. Et vous verrez que se fier à une pierre, c'est tout à fait pratique. Je l'ai déjà raconté, je crois, ici. C'est lors de la construction de la ligne de chemin de fer, la voulte Saint-Agrève, lors de la construction d'un pont en dessous au niveau de Hinte, en dessous de Saint-Agrève, le pont du Bon Pas, qui est devenu le pont du Malheur. Donc il y avait une pierre comme ça, et qui dépassait, et donc après la voûte continuait en dessus. Et donc, il y avait des échafaudages. Et après, quand on bâtit une voûte de pont, on met des sacs de sable pour équilibrer le poids dans les voûtes. Enfin, c'est assez complexe. Et donc, les maçons avaient mis un échafaudage. Et quand il s'agit d'une voûte de pont, ça peut peser des tonnes sur cette pierre. Mais voilà! Lors de la construction, cette pierre, on a pensé que ça venait de là, cette pierre s'est fissurée, et tout l'échafaudage et un arche de pont est passé à travers, est tombé sur la rivière, en dessous, à 35 mètres de hauteur, entraînant la mort de 8 ou 9 maçons qui étaient dessus. Les maçons s'étaient fiés à cette pierre.
elle n'était pas fiable. Et l'équipe traumatisée ne voulait pas continuer le chantier. Ça a été terrible. Et après un certain temps, on s'est quand même remis à l'ouvrage, mais on a tapé les pierres, les unes après les autres, ce genre de pierres en encorbellement, pour voir si elles n'étaient pas fêlées. Parce qu'une pierre fêlée, si vous tapez dessus, elle n'a pas le même son qu'une pierre, une bonne pierre. Et ils ont recommencé. Donc, se fier à une pierre, c'est quelque chose de très précis, même dans l'image. Alors, vous comprenez la force après de l'image, quand c'est Jésus-Christ, on peut se fier à lui. Il est fiable. C'est une pierre éprouvée, dit le prophète. Ah, il y a des pierres qui ne sont pas bonnes, la preuve en est. Bon, maintenant, vous oubliez un petit peu les loges. Et vous voyez en dessous, là, qu'est-ce que c'est que cette construction-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, vous ne trouverez pas ici dans la région ce type de construction. Il y a une grande pierre, des petites et du bois. Qui peut dire ça, c'est un mur? Comment on l'appelle ce mur? Antisismique. Le mur antisismique, justement, il en est parlé dans le livre des rois. Ben, on peut quand même lire le verset. Du mur antisismique, 1 roi 7. 1 roi 7, verset 9. Tous ces bâtiments étaient en pierre de prix, des pierres de taille selon les mesures, pierres sciées à la scie, au-dedans et au-dehors, selon depuis les fondements jusqu'au chaperon, et depuis le dehors jusqu'à la grande cour. Et les fondements étaient en pierre de prix, de grandes pierres, des pierres de 10 coudées, des pierres de 8 coudées, et au-dessus, il y avait des pierres de prix, des pierres de taille selon leurs mesures, et du cèdre. Et la grande cour avait tout alentour 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres, de cèdre, et de même, etc. Donc, ce mélange de pierres et de cèdre, et en plus, des petites pierres. Je pense que si vous recherchez sur Internet à mur antisismique, on a des photos dans des ruines de Megiddo, si je me souviens bien, où on voit encore ce type de construction. Alors maintenant, l'application spirituelle à l'église locale. Vous avez les grandes pierres. Ce sont des frères et sœurs qui sont très sûrs d'eux. Et il ne faut pas les contredire, ceux-là. Et je ne voudrais pas manquer de charité, mais vous avez observé quand même, comme moi, que dans les divisions, je parle bien dans les divisions, je ne parle pas dans les séparations. C'est différent. La séparation est de Dieu, la division est du diable. Dans les divisions, elles sont venues en grande partie toujours de frères et parfois de sœurs très sûrs d'eux. Et alors les petites? Oh, les petites, ce sont des frères et sœurs pieux, mais plus modestes, plus réservés, qui réservent leur jugement, qui réfléchissent, qui prient, qui ne se hâtent pas pour dire les choses. Et c'est ceux-là qui encaissent les chocs. Il paraît que cette couche de petites pierres, en cas de tremblement de terre, absorbe les chocs. S'il n'y avait que les grandes, tout croule. Et le bois et les petites pierres, et bien c'est dans l'église locale, c'est pareil. S'il n'y a que des grandes, dans les chocs, tout s'écroule. S'il y a des frères et sœurs modestes, pieux, réservés dans leur jugement, ça encaisse les chocs. Et l'assemblée locale peut continuer, malgré les chocs. Les chocs viennent toujours tard dans une église locale. Peut-être qu'il faut réfléchir sur le mur antisismique. Alors ensuite, ces pierres-là, vous voyez qu'elles n'ont pas du tout la même forme. Et des fois, on s'étonne que les frères et les sœurs dans l'église locale soient tellement différents les uns des autres. Eh bien, heureusement qu'ils sont différents. Parce que si nous voulons que tous les amis, les frères et sœurs soient identiques, il y a une solution. Hein.
C'est ça, la brique. J'ai vérifié. La tour de Babel, il est dit en Genèse 11, ils ont pris la brique pour pierre. Donc, dans un moule, et il y a moins de problèmes. Hein. Pour monter ça, il y a moins de problèmes. Il n'y a pas besoin de la tailler, on met l'argile dans un moule, mais cela, c'est tout un travail. C'est un long travail. Et voyez la forme de celle-là, là. Bon, je l'ai mis de profil, c'est la porte qui va dans cette gorge-là. Et dans certains, j'en ai d'autres, où il y a un trou, là, c'est pour le gond. Alors ne nous étonnons pas d'être différents les uns des autres. Et heureusement, heureusement. Et nous sommes taillés pour la place que nous occupons. Et ça, c'est très important. Nous sommes formés. Et je me demande si, quelque part, cette taille-là ne représente pas les épreuves, les difficultés, les contrariétés de la vie, tout ce qui fait notre vie. Et des fois, des choses assez, assez fortes, assez pénibles. Parce que la taille, c'est quand même un travail violent, quelque part. Eh bien, mais attention, c'est pas un frère qui taille un autre. Heureusement, parce que c'est quelqu'un de compétent hein, qui a fait ça. C'est un ouvrier qualifié qui a fait cette taille. Et le tailleur, le divin tailleur, c'est le Seigneur. Hein. Heureusement que c'est lui qui nous forme, qui nous taille. Vous voyez, celle-là. Là. Celle-là, elle est arrondie, là. Je vais en parler tout à l'heure. Et il y a des frères et sœurs qui sont un petit peu uniques. Il y en a qui se ressemblent un petit peu. Bon, il y a des pierres qui se ressemblent un petit peu, là. Hein. Mais ces deux, elles sont uniques, parce que celle-là, c'est un montant pour la porte. Et puis celle-là, là. Celle-là, elle a sa jumelle à gauche en sortant. C'est une pierre qui dépasse. Elle a une fonction très précise. Alors. Elle est pour que les roues de char, que le moyeu des roues de char d'autrefois ne heurte pas le montant de la porte. Ne heurte pas et ne le brise pas. Donc ça écarte la roue. Parce que vous souvenez, ben, il y en a une roue là-bas. Il y a le moyeu et il dépasse de la roue. Et s'il heurte, ben, soit le moyeu est arraché, soit la pierre, ça fait un éclat à la pierre. Et ça protège. Vous voyez, il y a une fonction, il y en a seulement deux dans une porte. Ça nous est tous arrivé de penser qu'un frère est spécial. Ben oui, mais c'est une richesse dans l'église locale s'il y a des frères spéciaux et des sœurs spéciales. Et des fois, bon, il y en a qui se ressemblent un petit peu. Il ne faut pas nous choquer de ça. La diversité des pierres, et puis on en trouverait encore des pierres. Bon, l'Église, c'est un chantier. Je vais vous montrer une photo d'un chantier. C'est pas très beau, un chantier. Voilà. J'avais fait une présentation comme ça en Suisse. Et donc, vous voyez, bon, c'est très grossi. C'est pas très beau, un chantier. Le chantier de l'église, il y a aussi beaucoup de décombres. Vous voyez, il y a des échafaudages, il y a des coffrages. On ne sait pas. On n'a pas la vue d'ensemble, là. Mais quand je vais tourner le panneau et que vous verrez l'ouvrage fini, alors là, vous allez être ébloui. Mais pour le moment, je ne le tourne pas. Et je voudrais souligner encore la diversité des bâtisseurs. Parce que nous sommes dans la deuxième partie. Maintenant, c'est nous qui bâtissons. Nous sommes collaborateurs de Dieu dans ce chantier divin qu'est l'Église dans le monde. Cette expression d'Éphésiens 4... l'édification du corps de Christ. Ça résume tout. Alors, il y a les évangélistes, on peut dire que c'est eux qui travaillent dans la carrière. Ils tirent dans la carrière. Si je donne un évangile à une personne, je travaille dans le chantier divin. Si je témoigne par-ci, par-là, si je donne un calendrier à la fin de l'année à mon voisin, si je... Bon, tous les actes, les petits actes d'évangélisation, je construis, je bâtis l'Église. Mais je dirais, mais c'est presque rien ce que je fais. Ah, oui, mais c'est presque rien, mais c'est pas rien. Je travaille un grand chantier, le chantier divin. Alors voyez, il y a des petits travaux, il y a des petites qualifications. Je ne sais pas si vous l'apercevez, le petit gars là. En tout cas, vous apercevez sa cruche là. Là. Bon, il n'a pas la qualification des autres qui sont des maîtres maçons, même du chef de chantier. Le petit gars, il apporte avec sa cruche, il apporte l'eau au maçon. Mais quand vous savez qu'un maçon, en pleine chaleur d'été, il arrive à boire 5 litres par jour, qu'est-ce qu'il ferait sans le petit gars qui apporte avec sa cruche? Il n'a pas intérêt à le mépriser. Donc, il ne faut pas mépriser ceux qui ont peu de qualifications dans l'Église. Ils sont très importants. Par exemple, et puis, on voit l'importance d'une personne parfois par l'absence de son service. Je prends un exemple. Bon, le dimanche matin ou le samedi soir, il y a une personne qui met les symboles sur la table. Oh, on trouve les symboles, on arrive le dimanche, tout est prêt, mais qui c'est qui a fait ça, on ne sait pas trop. Et ça nous est arrivé une fois, à Nonnet, on ne s'était pas entendu ou mal entendu, je ne sais pas, il n'y avait rien. Bon, on avait une réserve de vin, le vin c'était pas grave. Oui, mais le pain, ben, il a fallu aller courir chez le pâtissier ouvert le dimanche matin pour... le culte a eu 5 minutes de retard, mais bon, c'était rien. Oui, mais si c'est en race campagne, aller chercher du pain, où? Vous voyez, des petits services, on ne s'en aperçoit pas, ils sont très importants. Et la personne qui balaye le local de l'église, ça ne se voit pas, c'est comme on dit, le ménage, ça se voit que quand il n'est pas fait. Eh bien, si pour le bien-être de l'église, la personne qui aspire ou qui balaye l'église locale travaille pour le chantier divin de l'église. Ah, mais alors ça donne une toute autre allure à nos petits services. Nous travaillons un chantier prestigieux au chantier divin qui jour et nuit se construit sur la terre entière. Alors, le chantier. Je vais prendre une illustration. Encore pour parler de la diversité des bâtisseurs que nous sommes. En France, nous avons un chantier prestigieux. Il n'est plus en chantier maintenant, il est fini. C'est le viaduc de Millau. Et lors de l'inauguration, vous avez tous ceux qui ont travaillé sur le chantier, ils sont là. Bon, on va promener notre micro parmi ces gens. Et on dit, on rencontre un monsieur là, qu'est-ce que vous faisiez sur le chantier de Millau? Ah, moi j'étais grutier. Je travaillais à 150 mètres de haut et j'ai soulevé des dizaines et des dizaines de bennes de béton, chaque benne 10 tonnes, et on a construit les piles. Et vous êtes fiers d'avoir travaillé sur chantier? Ben oui, pensez, je suis fier. Vous voyez l'ouvrage là? Un ouvrage prestigieux. À côté, il y a une dame, une jeune dame. Qu'est-ce que vous faisiez sur le chantier? Ah, moi j'étais infirmière. Ben, on ne peut pas dire que c'est un bâtisseur ça. Si, on n'a pas eu de mort sur le chantier de Millau, mais on a eu quand même des blessures aux mains et autres. Et si je n'avais pas été là, cet ouvrier n'aurait pas pu continuer. Et vous êtes fier d'avoir participé au chantier? Ah ben oui, je suis fier. Fier, oui, ça c'est sûr. Nous passons à un troisième, et c'est un monsieur, qu'est-ce que vous faisiez sur le chantier de Millau? Hein, moi, j'étais soudeur de tôle à Lauterbourg. Lauterbourg, mais c'est pas à Milhaud, ça. C'est en Alsace. Ben non. Non, non, mais c'est dans la fonderie à Lauterbourg. On a fait les caissons. On a soudé les caissons qui constituent le tablier. Ah, mais vous étiez si loin et vous avez construit... Mais bien sûr que je considère que j'ai construit le viaduc de Milhaud. Tout le monde n'est pas sur le chantier. Et vous êtes fier. Ah ben oui, je suis fier. Un autre monsieur, il est... Qu'est-ce que vous faisiez sur le chantier de Milhaud? Ah, moi j'étais le seul photographe du chantier. Ah non, non, on ne peut pas considérer que vous êtes bâtisseur là, du chantier. Ah si, 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 c'est le service qu'on m'avait donné. Si, si, et sans moi, on n'aurait aucun souvenir de toutes les phases du chantier. Et vous êtes fier d'avoir participé? Ben oui, je suis fier, ça c'est sûr. Il y a encore un homme, il dit, qu'est-ce que vous faisiez sur le chantier? Ah, moi, j'étais toujours sur la route. J'étais chauffeur à la société Capel. J'ai transporté ces caissons d'Alsace jusqu'à Milhaud, de jour et de nuit. Oui, mais enfin, vous êtes routier. Non, non, j'ai participé à la construction du viaduc de Milhaud. Et vous êtes fier? Ah oui, je suis fier. Et je pourrais continuer. Hein. Vous voyez ce que ça veut dire, la diversité des constructeurs que nous sommes? Et je suis encore un peu pratique. Peut-être une mère de famille dit, moi je voudrais bien, mais je ne peux pas faire grand-chose dans l'église locale. J'ai des enfants petits et j'ai 3 enfants, et ils sont en bas âge encore. Tout mon temps est pris avec eux. Je peux pas construire. Je ne peux pas m'occuper de l'église. Quoi? Mais vous ne savez pas que vous êtes un grand bâtisseur, selon l'expression consacrée en Israël, Rachel et Léa ont bâti la maison d'Israël. Mais bien sûr qu'une mère qui élève ses enfants bâtit la maison de Dieu. Mais comment? Ces enfants qui seront amenés au Seigneur et constitueront la maison de Dieu. Mais il y a des sœurs qui n'ont pas d'enfants ou qui sont seuls. Mais chacun a son service, a sa qualification. Et moi, je crois que, justement, le Seigneur nous a formés, nous a fait passer par certaines circonstances, nous a taillés quelque part pour que nous soyons qualifiés pour la place que nous devons occuper, si modeste soit-elle. Et personne n'est de trop. Et tout le monde est indispensable. Alors quand nous prenons conscience que nous travaillons au plus grand chantier du monde, ben nous pouvons être fiers aussi. Il y a quelques mois, mon fils aîné, Luc, m'a offert un magazine hors série. Je ne veux pas dire le nom, je ne veux pas faire de la pub. Sur les 10 plus grands chantiers du monde actuels. Alors, bon, il y avait le doublement du canal de Panama, une tour en Arabie Saoudite, ou dans ces pays-là, qui va faire 1000 mètres de haut. Il y a un oléoduc entre la Méditerranée et la mer Morte, pour lui réinjecter de l'eau, parce qu'elle baisse. Bon, et d'autres, je ne me souviens plus, la couverture de Tchernobyl. Etc. Et j'ai pensé, il y en a un qui n'est pas là. C'est la construction de l'église, c'est de loin le plus grand chantier du monde. Et nous y collaborons, ben oui. Vous et moi, nous sommes tout petits, par rapport à l'immensité du globe, sur la terre entière, jour et nuit, je le répète, Jésus bâtit, ça c'est un aspect. Mais nous sommes collaborateurs de Dieu. Ah, mais ça donne. Moi, quand j'ai compris ça, ça donne au plus petit service une aura, je pourrais dire, une valeur comme ces gens-là qui ont travaillé sur ces chantiers prestigieux de Millau et autres, ils sont tous fiers. Et nous devons l'être. Pas de nous, de notre travail, non, non, du chantier de Dieu. Il faut réfléchir à ça. Et moi, je trouve que c'est très encourageant, ça. Et pas comparer les uns aux autres, chacun son service. Et encore une fois, des services qui sont tout petits et sont indispensables. Vous vous souviendrez du petit gars avec sa cruche, là? Bon, ben, peut-être qu'on est ça. On apporte un peu d'eau. Et ça fait la différence. Hein. Donc, il faut que je vous montre le chantier fini. Je vais vous le montrer, le chantier fini, c'est autre chose, c'est pas un chantier tout désordonné, c'est le chantier fini. Ouais. Vous voyez la beauté du chantier, quand il va se révéler fini. Où elle est cette église? La plus haute église du monde en pierre, elle est en Allemagne, à Ulm, en Allemagne. 161 mètres. De haut, la plus grande église du monde en pierre. C'est qu'une illustration. Mais celle-là, elle m'a intéressé parce qu'elle a été bâtie sur 5 siècles. Depuis qu'on a posé la pierre de fondement jusqu'à la pierre de fête, 5 siècles. Alors, il est bien évident que les premiers bâtisseurs qui ont fondé cette église n'ont pas connu la dernière équipe. Et que la dernière équipe n'a pas connu les premiers, et même ceux intermédiaires. Mais nous, c'est pareil. Il y a 2000 ans, c'est un chantier qui a 2000 ans de construction, et nous n'avons connu que, mettons, 2 générations qui nous ont précédés de bâtisseurs. Génération de nos parents, de nos grands-parents. Très, très peu. Et tous ceux qui, depuis la Pentecôte, ont œuvré à cette construction. Mais un jour, on posera la pierre de fête. Et moi, je ne sais pas votre impression, mais je me demande si on n'est pas quelque part ici, sous le sommet. Ça serait merveilleux si on était la dernière génération. On ne sait pas. La dernière équipe qui va poser la pierre de fête, vous la voyez ici, la pierre de fête, légèrement arrondie, c'est une pierre de fête. Zacharie 4, il posera la pierre de fête avec acclamation. Il y a, dans la construction d'un chantier, il n'y a rien de plus important que les fondations et il n'y a rien de plus souhaitable et désirable que l'achèvement. Et ça, c'est un principe divin. Quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu fonde, il achève. Dieu n'est pas comme ce bâtisseur de l'Évangile. Vous savez qu'il a commencé à bâtir et puis il n'a pas pu achever. Non, non, Dieu n'est pas ainsi. Alors là, nous revenons à Matthieu 16. Je bâtirai mon église. Parce que vous savez, chers frères et sœurs, chers amis, si la construction de l'Église ne tenait qu'entre nos mains, elle serait bien dans des mains fragiles. Et nous aimons la voir dans les mains de Dieu, le grand bâtisseur, et dans les mains du Seigneur Jésus qui a dit cette parole d'autorité, « Je bâtirai mon Église et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Oui, la construction et sa finalité est dans la main de Dieu, dans les mains du Seigneur Jésus. Mais nous sommes par grâce des collaborateurs qui passons quelques années là dans cette construction, toutes les équipes ont passé pendant 500 ans là, et toutes les équipes auront passé pendant 2000 ans. Quel beau jour quand l'Église sera achevée. Ah non, non, elle ne sera pas toujours en chantier. Elle ne sera pas toujours en chantier. Un jour, elle sera achevée, et selon cette merveilleuse parole d'Éphésiens 5, le Seigneur se présentera à l'Assemblée. Mais là, à la place de ça, j'aurais pu mettre une autre photo, qui aurait été plus sensible. J'aurais pu mettre une belle mariée. Mais c'est une autre image. les images se complètent les unes les autres. Et d'ailleurs, on a dans la Genèse, les deux images se rejoignent quelque part en Ève, parce qu'il est dit que Dieu forma une femme, mais dans l'original, paraît-il, je ne connais pas l'hébreu, mais c'est bâti une femme. Et donc, ce langage d'Éphésiens 4 n'est pas si étrange que ça. L'édification du corps, on dit l'édification d'une maison, d'un temple, l'édification d'un corps. Enfin, si, quand même, on dit bien, une personne est bien bâtie. Mais l'édification d'un corps, eh oui, Dieu bâtit une femme pour l'homme, de l'homme. Il n'y aurait pas d'église sans le Seigneur. Elle provient de lui, comme Ève provenait d'Adam. Et il se la présentera. Un jour, le chantier sera fini. Et ça sera la joie, des acclamations. Quand une maison est terminée, quand une cathédrale est terminée, on fait la fête. Bientôt, on fera la fête pour la gloire de Dieu. Et nous serons à la fois tous des pierres dans l'édifice de Dieu, mais aussi tous des collaborateurs dans notre génération. Il est dit de David, il a servi au conseil de Dieu en sa génération. C'est là tout notre désir. On n'était pas là dans la génération précédente, on ne sera pas là dans la future. On est dans une petite génération là. C'est beau cette expression de l'Esprit de Dieu. Il a servi au conseil de Dieu, au chantier de Dieu, je dirais, en sa génération. Que la grâce nous soit accordée, chacun content de notre place, content de notre service, ne jalousant pas le service de l'autre ou ne nous méprisant pas, ne nous dévalorisons pas, ne nous orgueillons de tirer gloire de notre service. Non, non. Paul dit, il était un peu excédé par les Corinthiens qu'il titillait, dit « Je suis ce que je suis, après tout. » Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Nous sommes là, avec nos qualifications, peut-être des petites qualifications, pour la gloire de Dieu. Mais il faut penser à ce chantier de Dieu qui se construit dans le monde. On disait hier, notre frère disait, entre 20 et 40 000 conversions en 24 heures. C'est ça le chantier de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de choses pour réfléchir encore. Mais que le Seigneur nous aide dans notre service et que nous soyons fiers d'être collaborateurs de Dieu dans le chantier divin, là où il nous place. Ici, ailleurs. Ça, c'est son affaire à lui. C'est l'affaire du chef du chantier.
Qui puisse s'appliquer à notre sujet, mais je pense à l'un d'entre eux, afin que tout le monde connaisse, parce que le 265, n'ayant pas reçu une forme de promesse. Et au verset 16, c'est pourquoi Dieu n'a point honte de savoir d'être appelé vers Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est quand même étonnant que les plus grands hommes de foi, dont Abraham, sont signalés comme n'ayant pas reçu les choses promises. C'est quand même un paradoxe. C'est un paradoxe. Il aurait eu du temps, je vous dis la parole, pour retourner d'où il était venu, en disant j'arrête. Nous aussi, certainement, si vous êtes sérieux dans l'Église, vous avez eu quelquefois envie de vous arrêter. De nos jours, l'Église ressemble un peu à une sorte de cabanon bancal, tenu par un été, et de temps en temps, vous avez envie d'envoyer un coup de pied en disant « Ah, venez vous pousser ». Mais il y a une autre vision, qui est la vision de foi, c'est que par la parole de Dieu,
nous avons accès au plan de l'architecte. Nous savons ce que sera l'église terminée. Et à la place du cabanon, vous voyez le château de Chambord. Oui, ça c'est la foi. Et alors, chacun agit à sa place. Vous avez, c'est la première fois que je viens dans cette grange, et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de pierres aussi. Pas mal de pierres. Il les faut toutes pour pouvoir mettre le plan. Peut-être que quelqu'un a travaillé une journée, il n'a pas vu la grange finie. C'est notre part. Nous ne savons, nous ne voyons pas, ce n'est pas encore fini. Mais les hommes et les femmes de foi voient l'édifice fini. Alors, comme Abraham, eh bien, nous saluons. J'aime cette expression. Ils ont vu, je relis. Ils n'ont pas reçu les choses promises, mais ils les ont vues de loin. Ils saluent. Puissions-nous avoir cette attitude de foi? Et j'aimerais que nous chantions, cette fois dans le cantique 115, dans lequel nous avons